CJSO 101.7. On a des choses à dire. Une présentation du comité des usagers Pierre de Sorel, de développement économique Pierre de Sorel, de Lucier, de Meubles André Beaulieu et du magazine Contact Affaires. À CJSO, on n'est pas toujours obligé d'être en accord, mais on peut s'en parler. Voici pour vous le rendez-vous d'affaires publiques où parfois les idées s'entrechoquent. Sur l'heure du lunch, avec Pierre Mandeville et ses invités, on a des choses à dire.
Bon midi, mesdames, messieurs. Ouais, hey, mon Dieu, attends, on va se mettre un peu de volume ici, là. Un petit peu comme ça pour s'entendre. Notre belle voix avec surtout Stéphane Martin en studio. Écoutez, je dois taire une rumeur tout de suite. J'ai des amis qui sont venus faire un tour à Sorel, qui ont pris le pont Turcotte. Alors, pour répondre à votre question, non, on n'a pas été bombardé par la Russie. Non, on n'est pas envahi. C'est seulement le pont Turcotte qui est toujours comme ça. On va en parler tantôt. OK, plus sérieusement, comment aborder la question de la santé? Parce que je vais avoir les deux candidats aujourd'hui, Jean-Bernard Raymond de la Coalition Avenir Québec et Gabriel Arpin du Parti québécois. Comme vous tous, j'ai eu à attendre à l'urgence d'un hôpital et plus souvent qu'autrement pour quelque chose que je connaissais déjà la cause, mais il fallait absolument un médecin pour prescrire le médicament. Ma petite histoire, ça vous intéresse pas, là? Moi, je fais des otites. J'ai un problème de canal, il paraît, un problème de canal. C'est très douloureux, je me rends à l'urgence. Pourquoi je me rends à l'urgence? Quand j'ai tout essayé? Ah, moi, je l'ai la réponse du problème. C'est parce que les CLSC, ils font pas leur job. Ben non, pas les gens du CLSC, les CLSC. Quand ils ont été fondés en 71, c'était pour le côté sanitaire et les urgences mineures. Ça n'a jamais été fait, les urgences mineures. On va y réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Ah oui, en 2018, parlant de la santé, lors de l'élection provinciale, je nommerai pas son nom, il y a une chef de parti qui, au lieu de débattre du temps d'attente acceptable à l'urgence, elle a sorti la vraie mission des CLSC. Donc, plus une question d'heures, X heures, le CLSC devrait s'occuper des urgences mineures. Bon, OK, dans quelques minutes, je recevrai, comme j'ai dit, deux des candidats à l'élection provinciale, M. Aymon et M. Arpin. J'espère qu'ils sont prêts à répondre à des vraies questions pour Richelieu, surtout des vraies réponses, parce que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent ce midi, là, s'il vous plaît, là, si vous me sortez la cassette, là, Pierrot, il ne sera pas de bonne humeur, mais pas pantoute, pantoute. Bon, OK, tout de suite après la pause, dans un premier segment, Martin Baller, notre chroniqueur, et Stéphane Martin, journaliste, bienvenue. Alors, on a des choses à dire.
Développement. Durable dans la région en soutenant et stimulant l'entrepreneuriat. Son mandat repose sur du développement, c'est-à-dire offrir des services de première ligne aux entrepreneurs de son territoire, ainsi qu'assurer la croissance des entreprises. Développement économique Pierre de Sorel fait connaître les projets d'affaires et travaille en étroite collaboration avec les partenaires du milieu afin de mettre en place des conditions favorables au développement de la région. Faites-nous part de vos projets d'affaires sur notre site web.
Jusqu'au 28 septembre, place à la promotion des ensembles de cuisine chez Meubles André Beaulieu. Économisez 200 $ additionnels à l'achat de deux électroménagers de cuisine admissible World Pool ou Maytag, ou encore économiser 300 $ additionnels à l'achat de trois électroménagers de cuisine admissibles Whirlpool ou Maytag ou plus. Rendez-vous chez Meubles André Beaulieu pour obtenir plus de détails et la liste des modèles admissibles. Livraison gratuite dans un rayon de 250 km autour de ce tracé. Pour en savoir plus, passez en magasin ou visitez lemeublebeaulieu.ca.
Leader centenaire bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.co.
On a des choses à dire. Une présentation du comité des usagers Pierre de Sorel, de développement économique Pierre de Sorel, de Lucier, de Meubles André Beaulieu et du magazine Contact Affaires. À CJSO 101.7, on a des choses à dire. De retour à Pierre Mandeville et ses invités.
Bon, de retour en studio, Stéphane Martin, journaliste bien connu à l'international et au local. Stéphane, bonjour.
Bonjour à toi, Pierre. Très heureux de faire de la radio avec toi.
Oui, vraiment heureux, moi aussi. À l'autre bout de la ligne, M. Baller, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Eh mon Dieu, il n'y a pas d'énergie là-dedans, mon ami?
Il est faible.
Comment ça? Qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas. Ça va. Je vais monter le volume.
Ah, c'est bien ça.
Ah, c'est bon, M. Baller, c'est correct, là. Écoutez, les gars, vous me parlez ce midi, on va parler de vandalisme, pancarte électorale. Je vais faire une petite mise en situation, OK?
Allez-y.
Je mets le terrain. Sylvain Lévesque, le député de Chauveau sortant, lui, là, il s'est fait découper toute sa face avec M. Legault, puis il a décidé d'en parler. Il a fait une petite vidéo, là, qu'il a mis sur Facebook, avec un sticker, un collant, indiqué « Non à l'intimidation ». Alors, moi, je vous laisse parler, messieurs, parce que je voulais mettre la table avec ça.
Ben parce que c'est une forme d'intimidation, oui, tout à fait. On reviendra tout à l'heure avec M. Baller sur la pertinence d'avoir encore des pancartes électorales en 2022, mais sur les gestes déplorables, et il y en a ici dans la région, hein, malheureusement, des pancartes, entre autres de Jean-Bernard Raymond, qui ont été vandalisées, c'est tout à fait déplorable. Moi, je considère que lorsqu'on se lance en politique, qu'importe le parti, qu'importe les allégeances, qu'importe le palier politique, on mérite le respect. Parce qu'on décide d'afficher notre visage, parce qu'on décide de coller notre nom à une idéologie, parce que aussi on risque d'être élu, on veut être élu, donc on donne 4 ans de notre vie là-dedans. Donc ça mérite le respect. Quand je vois des pancartes électorales brimées, et je veux éviter tout quiproquo et langage vulgaire, je me demande...
Vous êtes bien parti, par exemple?
Je me demande qu'est-ce qui est arrivé du spermatozoïde à personne qui fait du vandalisme sur une pancarte. C'est quoi le but qui est recherché derrière ça? De démontrer notre désaccord? Est-ce qu'on pense vraiment influencer le vote? Si tu veux faire une différence sur le vote, mon cher, va pratiquer dans l'isoloir. Et là, je suis pas aux danseuses, mais je suis dans un bureau de vote. Va pratiquer ton droit de citoyen dans l'isoloir, puis c'est là que tu vas faire la différence, pas mal plus que d'amocher des pancartes électorales. Qu'en penses-tu, Martin?
Mr. Baller.
Moi, sincèrement, je l'ai vécu moi-même. Du vandalisme, là, on en a tous vécu, tous ceux qui ont été candidats aux élections. À un moment donné, c'était moins pire, mais là, c'est rendu de la folie. Là. C'est pas juste les pancartes, là. On s'attaque directement aux candidats, on s'en va faire une parade devant chez eux, comme ils ont fait avec Éric Lefebvre. Moi, je pense que depuis le début...
Éric Lefebvre, c'est qui ça, Martin Barlow?
C'est le député attendez...
OK, c'est un député. OK, oui.
Député de Richemont-Arthabasca. Et malheureusement, c'est terrible ce qui s'est passé. Sa petite fille, elle a été vraiment secouée par ça. Et elle a des difficultés à sortir de chez elle maintenant. Elle a toujours peur que quelqu'un aille devant chez elle. Écoutez, 40 voitures devant chez vous qui font du klaxon et qui crient « fuck l'évêque ». Pas « fuck l'évêque », mais « fuck fuck Lefebvre » et « fuck Legault ». On sait d'où ça vient, là. On n'est pas fous. Là. C'est la même gang qui était allée à Ottawa faire... des manifestations à pu finir, et puis on sait qui les a appuyés. Là. Et donc, moi, ce que je décris le plus là-dedans, là, c'est que le candidat là, du PCQ, là, ben monsieur... Là, lui,
vous l'avez nommé? Non, vous ne le nommez pas. OK, oui, OK.
Je le nomme. Éric, là, oui, franchement, Éric. Là, il n'a pas dénoncé. Il n'a vraiment pas dénoncé la situation.
Il l'a dénoncé, mais pas fort.
Du bout des lèvres. Écoute, c'est ça, pas dénoncé. Je sais qu'il a peur de perdre ses appuis, là. Parce que c'est peut-être les seules personnes qui veulent l'appuyer là, pour l'instant, mais ça n'a pas de bon sens de ne pas dénoncer ça davantage, parce que c'est rendu ridicule. Puis, c'est quoi la prochaine étape? Moi, c'est ça. C'est quoi la prochaine étape? Là, on est rendu là.
On se rend tout le temps plus loin.
Ben oui, puis moi, je travaille en sécurité, et puis j'ai eu à couvrir toutes les conférences de presse du premier ministre, avec la COVID, avec M. Arruda. Et ça commençait déjà à brasser à ce moment-là, puis la sécurité s'était resserrée lors des conférences de presse. Et je sais que dans la gradation, là, c'est « what's next ».
Ça, monsieur, c'est épeurant. Moi, ce qui m'inquiète, je vais vous dire sincèrement, là, quel épais ou épaisse ou sadomaso va se présenter à des élections comme candidat avec la possibilité, toutes les possibilités de violence dont vous énumérez? Moi, je suis pas mal plus vieux que vous autres, je pourrais être votre père, mais dans les années 80, je m'excuse, il y avait des petits coups bas, là, mais là, c'est vraiment... On se cache derrière un écran, messieurs, hein? Martin, Stéphane, on se cache devant un écran, puis bingo, là.
C'est trop facile.
Exactement, c'est l'autre phénomène, tu as tout à fait raison, sur les réseaux sociaux où on peut se cacher derrière un pseudonyme, faire les commentaires que l'on veut. La question revient, jusqu'à quel point on peut influencer le vote là-dedans? Parce que vraisemblablement, on s'affiche contre un parti, on s'affiche contre une idéologie. Jusqu'à quel point on peut influencer un vote? Parce que c'est ça le but ultime, hein? Parce que une campagne électorale se conclut par une élection. Et si on affiche notre mécontentement, ben c'est qu'on tente de diriger le vote ailleurs que où.
Oui, mais Stéphane et Martin, je vous pose des questions à tous les deux, là. Dans les années 80 et même avant, là, du vandalisme sur des pancartes, c'était pas toujours quelqu'un qui voulait influencer un vote, là.
Non. Donc, il y a toutes sortes de monde. Mais moi, je veux juste en revenir à la situation qu'on vit actuellement. Mm. Moi, premièrement, là, la façon que moi, j'exprime mon vote puis mon mécontentement, c'est en allant voter.
Oui.
Ça, là, c'est l'ultime insulte ou injure qu'on peut faire à un candidat qu'on n'aime pas, c'est voter contre lui ou voter pour un autre. Mais c'est de voter. Et si ces gens-là vont voter, ben, tant mieux, ils vont pouvoir influencer pour de vrai la société québécoise. Mais d'aller faire un graffiti puis d'aller menacer un député, c'est pas comme ça qu'on influence qui que ce soit. Moi, ça m'influence à voter contre l'idéologie de cette personne-là.
Ça, c'est un bon point. Il y a des gens que si... Mais je pense que Sylvain Lévesque, le député de Chauveau dans la région de Québec, a fait ça un peu pour ça en disant « OK, vous avez détruit mes pancartes au lieu de les enlever puis les changer. » Je vais faire une petite vidéo face à ça. Je pense que ça peut se tourner contre ceux qui font ça, je crois, quand c'est généralisé.
C'est une très belle réaction ça, de la part de Sylvain Lévesque.
Oui.
Très belle réaction. Puis en même temps, je ne sais pas, est-ce qu'on passe au prochain sujet? Parce que je pense que la nécessité des pancartes électorales.
Oui, j'aimerais ça vraiment que tu m'en parles avec ton expérience de terrain. En 2022, les pancartes électorales, on les a vues là, au cours des dernières campagnes, là, des dernières décennies, passer de petites à immenses, revenir à petites. Est-ce que c'est encore utile d'avoir des pancartes?
Ils sont recyclables, Stéphane. Ils encore en place.
Je me suis fait des cabanes à pêche avec ça.
Pour que tu dises le candidat pour ta cabane à pêche.
Absolument. C'était une cabane multi-candidat. Multi-candidat.
Vas-y, Martin. Oui, vas-y.
Il y a beaucoup d'écoles qui appellent les candidats pour récupérer les pancartes après. Donc, c'est utile. De ce côté-là, c'est utilisé par la communauté. Par contre, moi, comme candidat, quand j'étais candidat, tant aussi longtemps que j'ai pas eu mes pancartes, ces poteaux, c'était comme de la bullshit de dire au monde que j'étais candidat. C'est comme si j'arrivais et je disais, hey, ouais, je suis candidat. Non, OK, le monde, ouais, c'est ça, t'es candidat. Mais la journée que j'ai eu mes pancartes, là, c'est la notoriété. Là, c'est les gens, ils disent, ah oui, il y a une pancarte, c'est un candidat. Et ça donne une certaine notoriété à des gens.
Parce que tu te faisais reconnaître sur la rue et partout, là, c'est ça.
Ben oui, tu te fais reconnaître, puis tu rentres à quelque part, puis le monde dit, bah oui, on te reconnaît, puis tu le ressens comme candidat, la différence, la journée qu'ils posent tes pancartes, tu vas te promener dans le centre-ville de Sorel, le gros centre-ville. Tout le monde, tu sais, ils te courent pas après, là, parce qu'au Québec, on n'est pas des fanatiques. Mais les gens te regardent, ils te parlent, ils viennent te voir. Et ça, ça fait une différence.
Et le nombre de pancartes, Martin, le fait justement qu'une pancarte soit vandalisée et rapidement changée, est-ce que ça peut démontrer l'équipe qui est derrière le candidat, la force de l'équipe?
Oui, mais c'était ça auparavant. C'est un bon point, ça. C'était ça auparavant, ça démontrait la force de l'équipe. Mais là, actuellement, moi, la stratégie qu'a employé Sylvain Lévesque, de mettre une toute petite pancarte par-dessus et de dire, regarde, on va laisser les preuves. C'est un peu comme les accidents de voiture là, avec des décès là, sur le bord des routes. À un bout de temps, ils voulaient laisser les carcasses de voiture sur le bord de la route pour dire, regardez, il y a eu un accident. Mais c'est la même affaire.
Faites un peu le Stephen King de vous ce midi, ou là?
Oui, bien, c'est ça. Je vais mettre un peu de dramatique là-dedans. On va rajouter du sang à sa pancarte.
Non, mais Martin, je reviens à ton idée. Je pense que Lévesque, je reviens là-dessus, Sylvain Lévesque, justement, au lieu de remplacer la pancarte, d'avoir mis un autocollant non à l'intimidation, non, c'est wise. C'est bon.
Moi, je trouve en tout cas que ça a été quelque chose d'ingénieux. Ça a été intéressant, puis ça démontre que, regardez, là, ça coûte cher, les pancartes, là. Ça coûte un bras. Quand tu reçois ta pile de pancartes sur une palette, là, puis qu'ils te livrent ça, puis après ça, il faut que tu ailles les installer, tu sais que tu en as trop. Tu sais que tu en as beaucoup de pancartes, ça n'a pas de bon sens. Mais, tu sais, il y a comme une sorte de stratégie, là, un peu spéciale, là, que d'installation des pancartes, là, des points stratégiques. On veut les mettre à l'entrée de la ville, on veut les mettre au centre-ville, à un point bien vu. Ça, mettons, il y a un Tim Hortons, puis il y a plein de monde. On veut le mettre là. On veut en mettre partout, des pancartes. Mais après ça, il faut les enlever, puis c'est pas tous les candidats.
Non, des fois, des fois, les pancartes sont là jusqu'à Pâques. Stéphane, ça laisse sur ta faim un peu, parce que tu semblais pas vraiment pour ça, toi, les pancartes.
Non,
en
pas
2022, tu étais...
Pas tant, je voulais connaître, mais les explications de Martin me conviennent très bien.
Mais de voir la face.
De voir le visage, de voir la notoriété apportée derrière tout ça, de se faire reconnaître aussi, parce que le porte-à-porte, le serrage de main... effectivement que les gens qui te reconnaissent, qui te voient arriver chez eux ou au restaurant, au centre commercial, ouais, peut-être effectivement que ça facilite l'entrée en contact.
Ouais. Je veux pas faire mon baveux. Là,
non,
mais
non, c'est pas ton genre.
Mais il y a bien des gens que tu vois juste ces pancartes pendant la campagne de RAL, puis après ça, tu les vois pas pendant 4 ans.
Ah, ben il y en a qu'on voit pas du tout non plus pendant la campagne électorale. candidat poteau, comme on appelle, effectivement.
Ouais, mais moi là-dessus, étant donné que j'ai déjà été un poteau, tu sais.
Oui, mais vous étiez t'étais un poteau actif, Martin.
Un poteau plus, peut-être, là, mais reste que, tu sais, j'ai été un poteau. J'ai un peu de respect pour ces gens-là parce que faut rappeler que ces candidats-là rapportent des votes aux partis politiques qui permettent d'aller chercher un certain financement pour construire un parti politique. Les petits partis, des fois, vont y aller pour l'idéologie, puis j'invite les gens à aller voter quand même s'ils pensent qu'ils vont perdre leur élection dans leur comté. Chaque vote compte, et ils comptent aussi en argent pour bâtir les partis politiques. À demander à la CAQ, c'est comme ça qu'elle s'est construite, la CAQ.
Ben, c'est un peu ce que Renald Bergeron a mentionné la semaine dernière. Renald Bergeron, quand il a dit que chaque vote, effectivement, donne un montant. 1,71 $ qu'il avait calculé notre ami Renald.
Je ne sais pas si Mme Anglade a réussi à aller chercher tous ses candidats. Là. Il restait une cinquantaine encore à nommer. Et elle a intérêt à les faire nommer rapidement pour pouvoir faire en sorte que, je crois, c'est samedi à la date limite pour...
C'est ça, je me demandais à ce jour, là, j'ai pas le dernier décompte, comment il restait de candidats à trouver pour le Parti libéral.
Je pense qu'il
en
restait une cinquantaine. C'est complètement
fou,
parce que là,
beaucoup,
ils vont prendre leur équipe qui sont efficaces, dans des comtés efficaces, pour aller dans les comtés qui sont vraiment, là, vraiment pas gagnés, pour aller là, pour aller faire signer du monde dans Tim Hortons puis un peu partout, pour aller chercher les fameuses 100 signatures, puis il faut qu'il y en ait plus que 100, parce que avec 100, s'il y en a qui sont rejetés, le bulletin est rejeté. Fait qu'il faut qu'il y ait moins chercher 125, 150 signatures, et là, ils vont présenter leur bulletin de vote, parce que sinon, ben quand il va arriver le jour du vote, si t'as pas de candidat, ben t'as pas une scène dans ce comté-là, t'as rien. Là.
Hier, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Madame Anglade a fait campagne dans son comté. Une chef qui fait campagne dans son comté. Oh là là!
C'est vrai que ça envoie un drôle de message, parce que souvent, c'est des comtés qui sont pris pour acquis. Pour avoir été dans celui du chef de l'ADQ, de la défunte ADQ, Mario Dumont, on le voyait pas faire campagne chez nous, parce que son vote était pris pour acquis.
Ben c'est toujours un peu comme ça, de toute façon.
Mais c'était un couteau à deux tranchants. Hein. Lorsque tu as un chef, là, surtout un nouveau chef là, comme Éric, qui, s'il ne se présente pas dans son comté une fois de temps en temps, là, la face, ben, il y en a qui vont dire « Voyons donc, il fait la campagne nationale, mais il ne vient jamais chez nous. » C'est sûr qu'avec les médias, ils sont partout. Sauf peut-être Poilievre, à un moment donné, qui va peut-être disparaître du radar des médias parce qu'il ne veut pas répondre à aucune question, mais ça, c'est une autre histoire.
dans le cas d'Éric, on nomme jamais son nom de famille, c'est cute. Dans le cas d'Éric, il faudrait qu'il fasse campagne chez eux.
Ben, en tout cas, moi, je pense que ça serait important pour tout le monde qu'ils fassent campagne, eux autres, dans leur comté, parce que je pense pas qu'ils vont avoir énormément d'élus, là. Plus ça va, là, moins la faveur est là.
Moi, je maintiens, ma petite carrière de journaliste me dit qu'au vote populaire, le nombre de votes total, il va être surprenant, Éric.
Mais moi, ma petite carrière de journaliste me dit que je dois le nommer parce que j'ai pas de parti pris. On parle bien d'Éric Duhaime ici.
Oui, désolé.
Oui, probablement.
Désolé.
Non, c'est vrai, Éric.
J'appelais Éric gentiment.
Oui, mais je sais pas. C'est une petite blague gentille, là, pas méchante. Il nous reste 20 secondes. Martin Barleux, petit mot de la fin. Je te donne 10 secondes, vas-y.
Un petit mot de la fin. Il va y avoir un beau débat, je pense, mardi. Et là, vous allez recevoir du monde, tout de suite après nous, là, vous allez recevoir des candidats intéressants. Donc, je demande à la population, écoutez ce que les candidats ont à dire. Et écoutez aussi le débat qui va se passer ce soir, parce que ce soir, il y en a un débat à la télévision, les chefs s'affrontent, et ça va être déterminant pour la suite des choses, donc soyez attentifs.
Et tu vas être présent, et tu vas être présent mardi prochain, Martin, je pense, hein, ici.
Ben oui,
au
je
débat,
vais être présent.
Excellent.
Ça va faire plaisir.
Stéphane Martin, 10 secondes.
Un 10 secondes, bien, effectivement, je vais faire du pouce sur l'idée de Martin. Allez voter. Écoutez, si votre choix n'est pas fait, je pense qu'on a la chance d'avoir des tribunes qui sont offertes ici dans la grande région de Sorel-Tracy avec un débat.
Écoutez-le. Voilà ce qui met le fin à notre premier segment. Merci Stéphane Martin. Merci Martin Baller. Bonne fin de journée.
Bon après-midi tout le monde.
Merci.
On est en pause?
C'est normal.
Voilà. Non. Des lois vous protègent. Pour en savoir plus sur vos droits comme usager ou déposer une plainte à la commissaire aux plaintes et à la qualité des services, contactez le comité des usagers Pierre de Sorel au 746-6008, poste 8209 ou écrivez-nous au info@usagerpds.ca.
Leader centenaire, bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.co.
CJSO 101.7 FM vous invite à vous procurer vos billets pour assister au débat des candidats à l'élection provinciale dans Richelieu, qui aura lieu le mardi 20 septembre à compter de 19h au cégep de Sorel-Tracy. Les billets sont en vente au coût de $15 à CJSO et en ligne sur le site Internet de la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy. Une invitation de CJSO.
On a des choses à dire. Une présentation du comité des usagers Pierre de Sorel, de développement économique Pierre de Sorel, de Lucier, de Meubles André Beaulieu et du magazine Contact Affaires. À CJSO 101.7, on a des choses à dire. De retour à Pierre Mandeville et ses invités.
On a en ligne Jean-Bernard Aymon. Bonjour, M. Aymon.
Bonjour, M. Mandeville.
Ah, mon Dieu, vous rentrez comme une tonne de briques. Vous êtes dans quel coin, là? Vous n'êtes pas en studio. Vous êtes dans quel coin, là?
Oui, écoutez, je m'excuse de ne pas être en studio avec vous et de faire l'entrevue au téléphone. Je suis aujourd'hui, puis c'est quelque chose qui n'est pas toujours connu, le comté de Richelieu, c'est bien entendu les 12 municipalités de la MRC de Pierre de Sorel, mais c'est également 4 municipalités qui font partie de nos amis des Mascoutins. Donc Saint-Jude, Saint-Bernard, Saint-Louis et Saint-Marcel. Et aujourd'hui, ben, je suis dans la région mascoutaine pour aller participer à des rencontres là, avec citoyens ou organismes de ces 4 municipalités-là.
Excellent. Hey, Monsieur Aymon, avez-vous entendu mon introduction?
Oui, je vous ai écouté avec plaisir, oui.
Oh là, chez moi le plaisir, vous là. Non, mais, blague à part, comment vous avez trouvé ça, vous, le fait de redonner au CLSC la vraie mission?
Ben, écoutez, les CLSC, c'est vrai qu'ils ont eu un rôle important, ils sont toujours là, ils font assurément partie de la solution qui doit être mise en place. Moi, ce qui est important, et puis pour M. Dubé également, Christian Dubé, ministre de la Santé, c'est l'accès à la première ligne. Puis je vous entendais, M. Mandeville, sans personnaliser le débat, pas de problème d'otite. Ça pourrait être un pharmacien, ça pourrait être une super infirmière.
Monsieur Aymon, je peux vous dire, par chance, j'ai un bon pharmacien. Je vais vous le dire tout de suite.
Oh, ben voilà. Alors, non, c'est incroyable. C'est la preuve vivante que l'entrée et l'accès à des soins de santé de qualité peut se faire par une multitude de professionnels. Et c'est ce que mon collègue, M. Dubé, s'attelle à mettre en œuvre.
Mais là, concrètement, là, pour que les gens qui nous entendent comprennent bien, là, OK? Je sors la vaisselle de mon lave-vaisselle, je me coupe sur un couteau. Il me faut des points de suture. Là. C'est pas juste un plaster. Faut que je me rende à l'urgence.
Ah oui, si c'est le cas que vous m'expliquez, là, c'est, ben là, je ne suis pas un spécialiste des cas.
Non, mais ce que je veux dire, je ne suis pas à l'agonie, là. Je ne suis pas un infarctus. Moi, je pense qu'il est là le problème. Il est là le problème. Les urgences mineures. Parce que les CLSC, au début, M. Aymon, je pense que vous le savez probablement, en 71, le but, c'était une question sanitaire, parce que c'était fondé le premier CLSC dans Pointe-aux-Trembles en 71 ou 68, et ensuite partout sur le territoire pour des questions sanitaires et urgences mineures. Ça serait quoi de partir ça? Je sais qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, on ne partira pas là-dessus, s'il vous plaît, là. Mais dans un CLSC, s'il y avait un médecin ou une infirmière spécialisée faire des points de suture, là, on vient de désengorger combien de cas à l'urgence, là?
Ah, vous avez totalement raison. Mais tu sais, je sais que vous venez de dire que vous voulez pas aborder le phénomène de pénurie de main-d'œuvre, mais malheureusement, c'est vrai dans tous les pans de la société, puis c'est particulièrement aigu dans le domaine de la santé. Tu sais, on en a tous, les collègues candidats, les autres partis, et à la CAQ, toutes sortes de bonnes idées, mais l'enjeu présentement, c'est d'avoir des gens, d'avoir des humains, du personnel soignant. CLSC, l'infrastructure est en place, là. Puis nous, on veut s'attaquer à l'humain. Puis là, c'est pour ça que le gouvernement de la CAQ, on a investi 400 millions de dollars supplémentaires pour, entre autres, former puis recruter 660 médecins supplémentaires et 5000 professionnels de la santé de plus.
Mais monsieur, bon,
on a prouvé que c'était possible de le faire durant la pandémie avec la formation accélérée de 9000 préposés aux bénéficiaires.
Monsieur Aymon,
à ce moment-là, avec de personnes qui sont en mesure de soigner votre coupure dans le lave-vaisselle, ben, vous allez
être plus rapidement. Monsieur Aymon, ce que je voulais simplement vous entendre dire, en tout cas, j'espère, c'est pas une question piège, ça serait peut-être une avenue le fun. Vous devriez communiquer ça à M. Dubé, votre ministre de la Santé.
Je vais le faire avec plaisir.
Non, je trouve que ça serait une bonne idée. Bon, M. Aymon, le temps file. Je le sais, vous avez de la jasette, plus que moi même, ou à peu près pareil. M. Aymon, là, je le sais que vous n'aimez pas ça, vous faire rabat-jouer avec ça, là. J'ai entendu le compte-rendu que Martin Lajeunesse, le maire suppléant de Sorel-Tracy, a fait de la rencontre avec le ministère des Transports. Vous étiez présent, vous, à cette rencontre-là?
Oui, j'y étais. OK.
Moi, je vais vous dire bien franchement, et c'est le commentaire assez généralisé des gens que j'ai croisés cette semaine, on n'est pas satisfait, là. C'est pas des réponses satisfaisantes. Vous, M. Aymon, là, je vous pose vraiment la question, là, comme député, mais même aussi comme citoyen, êtes-vous satisfait de réponses comme ça du ministère?
Ben, écoutez, c'est un bon sujet, puis je vous remercie de l'aborder, là.
Mais j'ai pas bien le choix.
De discuter des enjeux en transport. T'sais, vous savez, M. Mandeville, les citoyens paient beaucoup de taxes et d'impôts, et ils méritent de se promener sur des routes de qualité. T'sais, les gens ont raison de se plaindre, là. Ceci dit, au Québec, on a un déficit d'entretien de nos infrastructures routières qui est assez évident. Dans toutes les régions du Québec, vous vous êtes assurément promené un peu partout durant vos vacances estivales, puis c'est pas uniquement dans notre région.
Monsieur Aymon,
moi, je suis député dans le coin, adresser les problèmes du coin. Il y a un déficit d'entretien. Puis la situation du pont Turcotte, c'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable.
Bon, OK, allons-y. Moi, je veux vous entendre là-dessus. Parce que j'ai dit à votre attaché de presse, là, vu que vous nous aimez beaucoup, là, vous allez essayer de me trouver un scoop à midi. Là.
Ah, ben là, vous allez être déçu parce que j'ai
pour
vous, si ce n'est que de vous dire que une des raisons qui explique que malheureusement, on a il y a eu une grève des ingénieurs et des moyens de pression des ingénieurs de l'État qui a duré tout l'été. Puis ça, je dois vous dire que leurs moyens de pression, bien, ils ont fonctionné parce que les travaux routiers à travers l'ensemble du Québec ont été retardés.
OK, attendez, M. Aymon, je vous pose une question toute simple là, pour clore tout ça parce que je pense que ça va résumer vite. Vous me dites que l'histoire du pont Turcotte, que ça n'avance pas, on pourrait parler du pont Maurice Martel, c'est à cause de la grève des ingénieurs.
Ah, tout à fait.
OK, donc là, OK, je vous le fais répéter parce que je veux bien entendre, là. Donc, si ce n'était pas de la grève des ingénieurs, le pont Turcotte, on aurait résolu cette espèce de dédale de béton. Et vous ne savez pas le nombre d'accidents qu'il y a là, d'ailleurs. C'est hallucinant.
Non, mais écoutez, c'est important de dire.
Ben oui.
Les travaux sur la route boulevard Pisette 132 étaient prévus pour fin avril, début mai.
Oui, je vous ai entendu là-dessus. C'est vrai, je vous avais entendu là-dessus.
Lentement, parce que lorsque le conflit s'est réglé avec les ingénieurs, les travaux ont pu débuter. Les travaux de resurfaçage sur l'autoroute 30, prévus cet été,
c'est vrai.
Dans le plan, vont débuter dans quelques jours. Le pont Turcotte, pour être franc avec vous, c'est les ingénieurs qui ont décidé de mettre en place. Là, il faut toutefois dire là, que on ne l'appelle pas le vieux pont pour rien. Hein, notre pont Turcotte, il est magané, il a besoin d'entretien et de travaux importants. Et puis, les mesures mises en place pour restreindre le transport lourd n'ont pas fonctionné. Le NTQ il a été avec des gabarits de hauteur. Ça n'a pas fonctionné. Donc, ils sont arrivés avec la solution ridicule de faire le serpentin. Bon, présentement, maintenant, moi, je suis un gars positif qui veut regarder vers l'avant.
J'espère que c'est pas vous qui allez déneiger ça, M. Aymon, parce que le gars sur la, comme on dit dans le bon vieux temps, le gars sur la charrue, il va avoir du fun.
Ouais, ben, ça arrivera pas. Avec le NTQ à la rentrée.
Non,
le maire suppléant, Martin, a participé. Présentement, les ingénieurs sont de retour au travail et sont en train de se pencher sur une solution qui va être beaucoup plus viable. Puis, ce que j'ai demandé également au ministère des Transports, c'est de mieux communiquer avec plus de transparence, s'adresser. Moi, j'ai confiance en l'intelligence des citoyens, des citoyennes, de leur indiquer clairement les travaux qui sont à venir, les étapes. Et moi, je m'engage, là, si les citoyens me font confiance, le 3 octobre prochain, à avoir plus de transparence du ministère, puis de dire aux gens clairement quelles sont les prochaines étapes pour faire en sorte que notre vieux pont qu'on aime beaucoup puisse revenir dans un état satisfaisant.
OK. Puis là, la grande noirceur sur le pont Maurice-Martel ou aux alentours, il n'y a pas un maudit électricien dans la région qui peut faire ça non plus. C'est pas les ingénieurs, ça, là. Les luminaires, M. Aymon.
Non, vous avez raison. Il y a des travaux, M. Mandeville, qui ont été effectués. Moi, ce qui m'a été dit, cet hiver, c'était difficile de le faire puisque c'était... Il y a un lampadaire qui s'est quasiment ramassé dans la rivière Richelieu. Donc, ça a pris des travaux de filage importants.
Okay.
Sensiblement, c'est un gros job. Les travaux ont été faits. Là, il y a les lumières qui sont revenues. Là, on est rendu à l'étape du relampage.
Oh.
Puis, la dernière rencontre au MTQ, ce qui nous a été dit, on est à la troisième appel d'offres sans aucun soumissionnaire pour aller faire les travaux.
M'en va vous en trouver un électricien, moi. M'en vous dire, m'apprendre ça en main, moi.
Ben, écoutez...
Sincèrement.
C'est pas de ville que vous dites ça, parce que à la rencontre à laquelle les officiers de la ville participaient, je leur ai dit, écoutez, si les gens du MTQ n'en trouvent pas, n'hésitez pas les gens de la ville à fournir des noms d'électriciens.
Moi, je pense que je vais vous en fournir un nom. Je pense à quelqu'un, je ne peux pas le nommer, là. Ouais, je m'en va faire ça, M. Aymon. M'en va vous donner un nom, moi, après l'émission.
Ben, écoutez, fournissez son nom avec plaisir aux gens du MTQ. Et s'il est qualifié, ben, on va aller
c'est mieux qu'il
saluer
soit qualifié,
son travail quand il va participer au relampage.
Bon, M. Aymon, moi, j'ai fait mes lectures de chevet. Tantôt, avec M. Arpin, ça va être la même chose. Je me suis tapé le programme de la CAQ, le programme du PQ. J'ai une magnifique lecture de chevet. J'ai trouvé des petites affaires intéressantes. Mais là, M. Aymon, je veux vous entendre. Le bouclier anti-inflation. Bon, ça, c'est le fameux 600 $ pour les gens gagnant moins de 50 000 $ et 400 pour les plus de 50 000 à 100 000. C'est bien ça?
C'est bien ça.
Savez-vous ce que j'ai entendu dans un restaurant?
Allez-y, je vous écoute.
Hey, Gérard, le gars où il va payer notre voyage à Cuba?
Ah oui, ben là, je comprends ce que vous voulez dire.
Mm.
Vous savez, M. Mandeville, c'est important pour nous parce que les soins de Richelieu, je suis beaucoup sur le terrain là, depuis le début de la campagne.
Oui.
Ils nous font part de leur inquiétude face à l'inflation qui sévit. T'sais, vous le savez, c'est très important. Puis nous, on a trouvé que c'était important et primordial d'avoir des solutions qui vont permettre de réduire le fardeau fiscal. Exactement ce que vous avez appelé le bouclier anti-inflation, c'est quatre mesures, hein, compose notre bouclier anti-inflation, une baisse d'impôts que je qualifie de responsable, le montant que vous avez évoqué de 400, qui peut varier de 400 à 600 $ ça va toucher 6,4 millions de Québécois, une aide financière qui peut atteindre jusqu'à 2000 $ pour les aînés qui sont à revenus modestes, et quatrièmement, un plafonnement de tous les tarifs gouvernementaux pour aider concrètement les citoyens. Bon, là, concernant ce que vous avez entendu dans votre restaurant, tu sais, vous savez, nous, on a pris la décision de faire confiance aux citoyens, de leur redonner l'argent, puis ils vont la dépenser la manière la plus adéquate pour eux. Là, je suis un peu surpris par votre voyage. Moi, ce que j'entends, c'est hey, l'essence coûte cher, je travaille...
Non, vous savez, je blague un peu, M. Aymon, là.
Le coût de l'épicerie un peu partout, le coût des denrées, le coût des fournitures scolaires pour les jeunes familles. Alors, tu sais, on a des mesures ciblées, mais on fait également confiance aux citoyens. On remet de l'argent dans leur portefeuille, puis ça sera à eux de l'utiliser à l'endroit le plus efficace. Donc moi, je tiens à dire que dans le dernier mandat, on a remis quand même 3 milliards de dollars annuellement dans le portefeuille des contribuables, avec entre autres, si vous avez vu la baisse des taxes scolaires, la bonification des allocations familiales, votre permis de conduire, M. Mandeville, a sûrement coûté
moins cher. Ah non, attendez, ça, c'est une belle surprise, par exemple. Ah non, ça, c'est une belle surprise, le montant de mon permis de conduire. Mais M. Aymon, juste entre nous deux, là, y a personne qui nous écoute, là. Ça marche quand même de donner 600$ puis 400$, là.
Ben, vous voulez dire, ça fonctionne. Ben,
ça fonctionne pour les votes, M. Aymon, quand même, un petit peu.
Ça fonctionne bien pour aider les citoyens qui ont besoin d'aide un peu dans la période inflationniste que l'on vit présentement.
Je le sais, M. Aymon, mais quand même, électoralement, ça nuit pas.
Ben, écoutez, on est en période électorale. On a le premier montant de 500 $ à l'automne dernier. Le 600 $ qu'on vous parle, on ne va pas attendre longtemps parce que les gens ont des problèmes maintenant. Et si les citoyens nous font confiance, ça va être en décembre prochain. Les baisses d'impôts sont échelonnées sur les prochaines années. Alors, tu sais, c'est sûr qu'on est en campagne électorale, alors ben on fait une campagne.
Je comprends. Monsieur Aymon, il me reste deux petits sujets. Le temps file, il nous reste à peu près 3 minutes et demie parce que je veux exactement le même minutage, 16 minutes pour vous et Monsieur Arpin. Comme je vous le disais, je me suis tapé votre programme, celui de la CAQ plutôt, et à la page 15, Oui, c'est ça. On parle des logements sociaux. On mentionne 3 milliards de dollars pour des rénovations de HLM et 1,6 milliard de dollars pour la construction de 15 000 logements à prix abordable. Ça veut dire quoi pour notre région, ça? On a-tu quelque chose là-dedans?
Ah oui, tout à fait, parce que là, vous tombez sur un bon point. Il y a un enjeu sérieux d'accès aux logements adéquats et abordables dans plusieurs régions du Québec, puis notre région, ben, on n'y échappe pas. Le contexte, M. Mandel, a changé très rapidement. On voit qu'il y a une baisse importante de la disponibilité des logements dans nos villes et une augmentation rapide du prix des loyers. Tu sais, moi, le taux d'inoccupation, là, c'est je trahis mon âge, là, mais c'est la première fois que je vois ça avec des taux d'inoccupation si bas. Puis on doit aider nos citoyens, là. Là, vous venez de parler de nos engagements. Je vous parlerai également des 7200 logements qui vont être subventionnés.
Oui, mais dans la région, M. Lamont.
Supplément au loyer. Ouais. Ben, localement.
J'ai mis la table localement, là, pour M. et Mme Tout-le-Monde, ici, dans la région de Sorel-Tracy et le comté en général. Y a-t-il des choses concrètes que vous pouvez me dire où cet argent-là est allé?
Oui, bien, tout à fait. T'sais, le rôle du député, c'est de s'assurer, M. Mandeville, que le financement ait un accès au programme pour les organismes de notre comté. T'sais, je vous cite en exemple les berges du Grand Héron. Je peux vous dire qu'on travaille très bien, on collabore avec nos partenaires du monde municipal. Oui. Localement, l'accès au logement, t'sais, c'est beaucoup dans la ville-centre, quoique vrai dans certaines zones rurales. Puis je ne veux pas parler pour la municipalité de Sorel-Tracy, mais on les accompagne avec le ministère des Affaires municipales. Je sais qu'il y a plusieurs projets qui sont en cours de réalisation sur le point de l'être, avec l'Office d'habitation Pierre de Sorel, entre autres, les HLM pour les habitations à loyer modique. Alors, c'est un ensemble, c'est un buffet de mesures, j'oserais dire, qui va faire en sorte qu'on va venir aider nos citoyens parce que c'est un enjeu qui est important. Je dois dire aussi que le privé va être important là-dedans parce que dans une de mes rencontres plus tôt cette semaine avec des gens d'affaires, figurez-vous qu'une entreprise là, que je ne vais pas nommer, mais une grosse PME de la région qui est dans un projet d'acquisition de terrain, finalement, ils vont bâtir des loyers pour accueillir leur clientèle immigrante pour pouvoir les loger.
On est rendu... Très, très bonne nouvelle. Il me reste une petite question pour vous, M. Aymon. C'est plus précis, là, mais je voulais savoir si on avait quelque chose dans cette histoire-là. Dans le programme de la CAQ, on parle de transfert des fonctionnaires, de plusieurs fonctionnaires des grands centres comme Montréal et Québec, vers les plus petites municipalités. Et je vous ai entendu il y a un an ou deux là-dessus. Il me semble que peut-être Sorel aurait quelque chose ou c'est l'ex-maire qui en avait parlé. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose là-dessus? Il nous reste 20 secondes.
Ah oui, bien sûr. Plus, ça fait à peu près un an. Puis moi, je suis très fier de... Vous savez, c'est une mesure qui a été mise en place par Sonia Lebel, ma collègue, la présidente du Conseil du Trésor. Oui. Et notre volonté, c'est de régionaliser à peu près 5 000 postes de fonctionnaires de l'État public québécois.
Mais pour Sorel, M. Aymon, il me reste 10 secondes.
Oui, bien écoutez, j'ai fait ma job de député au gouvernement. J'ai été voir rapidement ma collègue Sonia et l'annonce qui a eu lieu il y a un an, c'est que dans toute la Montérégie, l'endroit sélectionné pour accueillir les travailleurs de la fonction publique qui vont vouloir se régionaliser, c'est ici à Sorel. Bon, ben, c'est à Longueuil, c'est pas à Boucherville, c'est pas à Valleyfield, c'est à Sorel-Tracy.
C'est bon.
Au gain pour notre région.
C'est tout le temps qu'on avait, M. Aymon. Je vous remercie énormément. Bonne route, soyez prudents, puis on va sûrement se reparler pour tout ça.
Merci, à très bientôt.
Merci, M. Aymon. Au revoir.
Lorsque l'on parle de droits en matière de santé et de services sociaux, le Comité des usagers Pierre de Sorel veille sur nous. Sa mission, nous renseigner quant à nos droits et nos obligations tout en défendant nos intérêts. Saviez-vous que, pour susciter notre confiance face au système de santé, la loi prévoit 12 droits, tels que le droit de consentir à des soins ou de les refuser, celui de participer aux décisions ou encore d'être accompagné, assisté ou représenté? Le Comité des usagers Pierre de Sorel nous permet d'exprimer nos insatisfactions et même de porter plainte. Pour plus d'informations, composez le 450-746-6008.
Développement économique, Pierre de Sorel travaille à la création d'emplois durables dans la région en soutenant et stimulant l'entrepreneuriat. Son mandat repose sur une vision large du développement, c'est-à-dire offrir des services de première ligne aux entrepreneurs de son territoire, ainsi qu'assurer la croissance des entreprises. Développement économique, Pierre de Sorel fait connaître les projets d'affaires et travaille en étroite collaboration avec avec les partenaires du milieu afin de mettre en place des conditions favorables au développement de la région. Faites-nous part de vos projets d'affaires sur notre site Web.
Jusqu'au 28 septembre, place à la promotion des ensembles de cuisine chez Meubles André Beaulieu. Économisez 200 $ additionnels à l'achat de deux électroménagers de cuisine admissibles Whirlpool ou Maytag, ou encore économisez 300 $ additionnels à l'achat de trois électroménagers de cuisine admissibles Whirlpool ou Maytag ou plus. Rendez-vous chez Meubles André Beaulieu pour obtenir plus de détails et la liste des modèles admissibles. Livraison gratuite dans un rayon de 250 km autour de Sorel-Tracy. Pour en savoir plus, passez en magasin ou visitez lemeublebeaulieu.ca.
On a des choses à dire. Une présentation du comité des usagers Pierre de Sorel, de développement économique Pierre de Sorel, de Lucier, de Meubles André Beaulieu et du magazine Contact Affaires. À CJSO 101.7, on a des choses à dire. De retour à Pierre Mandeville et ses invités.
Rebonjour, rebonjour en studio cette fois-ci. Gabriel Arpin, je pars mon chrono. Voilà, Monsieur Arpin, c'est parti. Comment ça va?
Ça va super bien.
Oui, la campagne?
Ça va super bien aussi, ça se déroule super bien. Plus je rencontre de gens, plus que ça va bien.
Vous êtes un sportif, alors...
Oui, justement, hier, je me suis fait initier au pickleball à Fernand Lefebvre.
Au quoi?
Au pickleball, c'est un nouveau
moi,
sport.
Moi, j'ai 59 ans, là. Moi, je connais rien, là. Le pickleball.
Ben, c'est un nouveau sport, en fait. C'est avec des petites raquettes puis une balle qui ressemble à une balle de hockey cosum. Puis c'est un peu un genre de tennis sur un plus petit terrain. Puis okay. Y a beaucoup de personnes retraitées qui s'y adressent, mais il y a plein de jeunes aussi. Fait que j'ai rencontré des gens là, puis ça m'a permis de bouger un peu.
Bon, ça, c'était la mise en matière. Question de se réchauffer un petit peu. Bon, Gabriel Arpin, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez 28 ans.
Oui.
Possédez un bac en anthropologie de l'Université Laval et une maîtrise en études internationales de cette même université.
Exactement, oui.
Êtes-vous un peu sadomasochiste d'aller en politique? C'est quoi l'affaire?
Ben, en fait, ça fait longtemps que j'y pense. Moi, malheureusement, j'ai pas fait mon cégep à Sorel-Tracy. Je l'ai fait à Limoilou parce que j'ai été recruté pour le volleyball. Okay. Mais c'était aussi pendant la grève étudiante. Oh. Je me suis pas impliqué parce que j'étais un peu jeune à ce moment-là, mais ça m'a donné le goût d'en apprendre plus pour la politique puis de comprendre les enjeux. Donc, ça vient de loin, mon intérêt pour la politique. Puis avec mes études, ben, je sentais que c'était le bon moment de me présenter en élection.
Ça fait longtemps que vous êtes un militant du Parti québécois?
Ça fait un petit moment, mais honnêtement, je trouve que pour cette campagne-ci, le Parti québécois a un plan de match assez concret et beaucoup plus progressiste que les dernières élections. Donc, ça m'a donné le goût de me présenter comme candidat.
OK, OK. Y a-t-il un modèle qui vous a plus incité à faire de la politique? Je pense que votre famille, vous avez un ancêtre qui a été en politique, vous.
Oui, exactement. En fait, c'est un grand-grand-grand-oncle. Il travaillait, il a été gouverneur général du Québec au début du 20e siècle. Puis il a grandi à Saint-Ours, à la ferme familiale qu'on a encore, la ferme qui appartient maintenant à René Perraudeau, mais qui est le frère de ma grand-mère. Donc lui, il a mis en place une loi qui s'appelle la loi Perraudeau, puis que ça permettait à l'époque, qui était très révolutionnaire pour le Québec, mais aussi pour le monde entier, c'était de permettre aux femmes, quand le mari décédait, de devenir la première héritière. Avant, ça allait au fils.
Oui.
Puis il y a beaucoup de femmes au foyer qui travaillaient autant que le mari, qui se retrouveraient après le décès du mari avec rien devant elles. Donc cette loi-là a permis de créer un premier pas vers l'égalité homme-femme. Donc
ça, vous êtes natif de Sainte-Victoire?
Oui, exactement.
OK, la ruralité, là, l'agriculture et tout ça, parce qu'on souvent on a la mauvaise, très mauvaise habitude de parler que de Sorel-Tracy, mais le comté, ça va justement jusqu'à Saint-Jude et tout ça. En particulier, avez-vous encore des racines là, au niveau de l'agriculture? Puis le Parti québécois va faire quoi en particulier pour ça?
Ben moi, dans le fond, je suis pas agriculteur, mais à chaque printemps, je vais faire les sucres avec mon oncle, donc on peut dire que j'ai encore un peu ça dans le sang. C'est quelque chose que j'aime bien faire. En termes d'agriculture, ben c'est sûr que le Parti québécois va investir beaucoup pour les agriculteurs parce qu'on veut créer la souveraineté alimentaire au Québec. On l'a vu, la pandémie, ça peut être difficile en termes de marchés internationaux puis des ressources qu'on importe au Québec. Donc, un des objectifs du Parti québécois, c'est de créer la souveraineté alimentaire à long terme. Donc, de permettre que les Québécois peuvent subvenir à leurs besoins alimentaires seulement avec les ressources produites au Québec. Donc, pour faire ça, évidemment, il faut investir avec les agriculteurs puis travailler avec eux en consortium pour être capable d'arriver à ça. Donc, c'est un des projets qui ferait que le Parti québécois veut investir en agriculture.
En avez-vous rencontré des agriculteurs?
J'en ai rencontré quelques-uns, oui. C'est sûr que j'ai parlé beaucoup avec mon grand-oncle René Perraudeau, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est maintenant retraité. Il a vendu son quota, mais c'est sûr qu'il était impliqué énormément. Mm-hmm. Puis j'avais fait un travail au cours de mon baccalauréat sur l'agriculture pour savoir l'état de l'agriculture dans la région. Donc, j'avais déjà une bonne idée de la situation. Il y a plusieurs enjeux qui guettent l'agriculture partout au Québec, mais aussi dans la région de Sorel. Donc, okay. Oui.
Vous avez entendu l'entrevue avec... avez-vous eu l'occasion, oui, en voiture, oui. Vous avez vu arriver avec M. Aymon?
Oui, oui.
Vous allez faire quoi, vous, pour les routes et tout ça, là? Bang. Vous êtes élu le 3 octobre. Oui. Là, vous êtes poigné avec le pont Turcotte, le pont Maurice-Martel. Vous faites quoi?
Bien, premièrement, je pense que c'est important de mentionner qu'un des objectifs du Parti québécois, c'est de décentraliser les pouvoirs de l'État. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que les députés en région vont avoir beaucoup plus de pouvoir décisionnel qu'actuellement. Donc, les députés vont avoir un certain budget, ils vont pouvoir l'attribuer aux projets qui les concernent et aux projets qu'ils trouvent importants, ce qui est logique parce que c'est eux qui sont dans le milieu.
Vous êtes en train de me dire là que le Parti québécois, par exemple, on va rester dans le domaine des transports, là, vous auriez comme député du Parti québécois un montant qui n'est pas seulement un petit budget discrétionnaire, mais un budget plus intense, pour régler des urgences.
Bon, je ne veux pas m'avancer jusque-là parce que ça...
c'est plus dur, hein? C'est plus dur. Quand on est élu, là, moi, je vois comme un élu, là, disons. Là.
Mais moi, j'ai eu la chance de parler avec des gens haut placés au Parti québécois, puis c'est l'objectif. Maintenant, est-ce que ça va être sous forme de budget ou sous forme de projet de loi? Ça, je ne peux pas m'avancer sur ça, mais ce que je sais, c'est que les députés du Parti québécois, ils vont avoir plus de pouvoir en région qu'en ce moment. Donc, ils vont avoir la possibilité d'agir sur des choses qui, avant, prenaient beaucoup de temps parce qu'il fallait passer absolument par Québec, par exemple. Mais là, ils vont avoir un certain pouvoir décisionnel plus grand qu'actuellement.
Ça m'emmène à un autre chapitre, le rôle du député. OK, on dit toujours le député. Vous connaissez la définition du rôle du député. Mais vous, Gabriel Arpin, là, vous êtes élu député. Vous faites quoi concrètement, là? On connaît un peu la job. Vous êtes souvent à l'Assemblée nationale du mardi au jeudi quand il siège, etc. Qu'est-ce qui va vous différencier, vous?
Bien, je pense que la première chose, puis j'en ai parlé lors de mon investiture il y a environ 3 semaines, c'est que je veux pas dire aux Québécois, ou dans ce cas-ci aux Sorellois et aux gens de les MRC, quoi faire. C'est pas mon travail de dire aux gens comment penser, puis c'est pas mon travail de dire aux gens quoi faire. On l'a vécu un peu à travers la pandémie, bon, c'est sûr que c'est une situation particulière, mais moi, je veux que les gens m'indiquent c'est quoi leurs inquiétudes, puis s'ils m'indiquent c'est quoi leurs priorités. Donc, premièrement, je veux qu'il y ait un changement de dynamique par rapport à ça, je veux qu'il y ait des échanges avec les citoyens, puis moi, comme député, si je suis élu, c'est sûr que je vais mettre en place des projets. J'aimerais ça qu'on travaille avec les gens du développement pour être capable de développer notre région puis inciter les gens à l'extérieur à venir ici. Bon, il y a plusieurs idées, mais je veux pas m'étaler trop longtemps sur ça.
Ah, c'est plate. Moi, j'aimerais ça, vous êtes
élu. Ben, je peux continuer. Ben,
Non, j'ai du stock. Gardez-moi la brique. Là, vous ne voyez pas à la maison, naturellement, mais j'ai une brique. J'ai carrément... Mais il est bien fait.
Oui, oui.
Il y a un avantage. Il y a un avantage dans ce programme-là, M. Arpin. Il n'y a vraiment pas de tataouinage sur l'indépendance.
Non, c'est vrai.
Non, mais ça, je vous le donne. Non, attendez, je vous le donne. Je ne vous dis pas que je suis d'accord.
On en parle.
Mais je vous le donne. Je vais te dire de quoi. Il n'y a rien de flou là-dedans au niveau de l'indépendance.
Non.
Bon, ça, c'est une affaire de régler parce qu'on n'en parlera pas pendant une heure. C'est, non, c'est clair comme de l'eau de poche.
Oui, exactement.
Là, je vous emmène sur quelque chose de plus touché. Vous n'avez pas le document en main, là. Mais à la page 13, sur la langue française, vous en faites pas, c'est pas des questions pièges, savoir où est la virgule, là. Je vous donne trois... le Parti québécois aspire à, OK, au niveau de la langue française, assurer que tous les documents produits par l'État sont rédigés en français. Parce que là, ça va. Offrir les services du gouvernement du Québec aux Québécois allophones uniquement en français, tout en conservant un service en anglais pour la minorité historique anglophone. Et où ça se complique, moi, là, puis je l'ai relu 2 fois, là, rendre obligatoire la connaissance du français pour les immigrants avant leur arrivée au Québec. Là, attendez une minute. Là, vous me dites là, qu'il faut rendre obligatoire la connaissance du français pour ceux qui arrivent, mais en même temps, vous me dites ici, tous les documents en français, tous les services du gouvernement du Québec aux Québécois allophones uniquement en français. Je fais quoi, là, avec un immigrant qui ne connaît pas le français? Là, vous me dites d'un côté, s'il ne connaît pas le français, on va lui faire apprendre, mais pour qu'il s'en vienne, il faut qu'il connaisse le français. Je sais pas si vous comprenez un peu.
Oui, je comprends là-dessus. Là. Je comprends totalement votre question. Puis c'est vrai que c'est important de spécifier la chose. Mais je pense que c'est mentionné aussi dans les points. Là, j'ai pas le document devant moi, donc je peux pas citer le document.
C'était
mais...
pas le but.
Non, je sais, il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est marqué aussi dans cette région-là du document que l'objectif, c'est de promettre un programme d'inclusion en français pour les immigrants plus développé. Donc, pour que les immigrants arrivent au Québec, il va falloir qu'ils apprennent le français. Puis la partie plus haut que vous avez mentionnée, que les documents seront uniquement en français, sauf pour la minorité anglophone.
Avouez, M. Harpin, là, on aurait pu faire ça plus simple un petit peu.
Oui, ça aurait pu.
Faut que l'immigrant ait une connaissance du français, mais ceux qui n'ont pas de connaissance, qui s'en viennent, on va leur montrer le français.
Ben, je pense que c'est parce que, tu sais, on a connu, il y a des événements tragiques qui se passent en Ukraine en ce moment, puis il y en a eu plusieurs aussi au Moyen-Orient. Puis le Québec est souvent une terre d'accueil pour ces gens-là qui ont perdu leur maison, mm-hmm. puis des fois leur famille. Donc, dans ces cas-là, c'est comme impossible de leur exiger d'apprendre le français quand ils sont sortis des débris de leur propre maison, peut-être qu'ils ont perdu leur famille, sont déjà en situation de crise. Ça serait un peu immoral de leur dire « ben on vous accueille pas parce que vous parlez pas présentement le français ». Donc, okay. Pour ces gens-là, on va offrir des programmes pour les aider à s'intégrer au Québec et parler le français parce que c'est important. Mais par exemple, pour les gens qui veulent immigrer et qui ont une demande plus traditionnelle, on va dire ça comme ça, oui. Ben là, il y a des connaissances du français qui sont requises.
Si je comprends bien, vous avez milité pour le Parti québécois tout le temps. Là. Vous n'avez pas été un petit bout conservateur, un petit bout Québec solidaire. C'est pas mal toujours au Parti québécois, là.
Bien, c'est sûr que j'ai eu un petit moment au début de mes études.
De remise en question.
On parle de il y a 10 ans environ, puis j'étais dans un milieu scolaire très, très à gauche. Donc,
oh, oui.
Donc, tu sais, anthropologie, on s'entend que c'est pas très conservateur.
Oh non. Monsieur Duhem n'a pas d'affaires là, pantoute.
Pas vraiment, non. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'adeptes de Monsieur Duhem en anthropologie. Mais tout ça pour dire que j'ai jamais été fervent d'un parti comme de l'autre. Mes deux partis préférés ont toujours été, en termes d'idées, notamment pour la souveraineté, Québec solidaire, le Parti québécois.
Mais Québec solidaire est plus flou un peu, là.
Exactement. Donc, avec les années et avec beaucoup de réflexions personnelles, j'ai décidé de me projeter plus à travers le Parti québécois parce que les valeurs du Parti québécois me rapprochent plus. Et je trouve que Québec solidaire, des fois, entre guillemets, peuvent avoir des idées un peu trop extrêmes. Et comme des fois, ça me rejoint pas, donc c'est ça. Mais depuis les 5, même jusqu'à 8 dernières années, je suis Parti québécois.
Donc, vous, là, qu'on enterre le Parti québécois à chaque élection, ça vous a pas fait hésiter si vous vous présentiez pour le Parti québécois ou pas?
Non, au contraire, en fait, je trouve que c'est un moment important pour les Québécois. C'est un moment charnière, un moment justement après la pandémie. Les Québécois ont une décision à prendre par rapport à la direction qu'ils veulent amener le Québec. La CAQ propose des trucs très entrepreneuriales. Ils veulent mener le Québec de façon entrepreneuriale, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Moi, ma mère est une femme d'affaires et j'ai énormément de respect pour ce qu'elle a accompli, puis j'ai énormément de respect pour les gens d'affaires. Mais je ne pense pas qu'on peut diriger un État ou un futur pays mm-hmm. juste avec une vision d'affaires. Ça prend plus que ça. Donc, pour moi, me présenter pour le Parti québécois, c'était une façon de donner un coup pour dire aux Québécois, ces élections-là sont critiques, puis c'est le temps de prendre une décision pour ce que vous voulez pour le Québec.
Donc, si je résume, le Parti québécois, il est à croiser des chemins, là. J'ai été au lancement de votre campagne, j'ai parlé avec Mme Yvon, et c'est revenu quelques fois dans votre discours, celui de Mme Yvon, vous êtes à la croisée des chemins.
Oui, exactement, mais je pense que c'est pas juste le Parti québécois qui est à la croisée des chemins.
Ah, oui, non, il y en a plusieurs.
C'est des élections qui sont critiques, je veux dire... On a une apparition du Parti conservateur au Québec, chose qu'on ne pensait jamais qu'elle allait arriver. Le Parti libéral est probablement un de ses pires moments dans l'histoire de son parti. Le Parti québécois, oui, est un croisé des chemins. Mais justement, c'est pour ça que je dis aussi que c'est un moment critique pour les électeurs québécois. C'est parce que ces élections-là vont décider d'où le Québec va. Mais moi, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'aux dernières élections, quand je rencontre les gens, ils ont voté CAQ pour sortir les libéraux. Mais que là, ils vont revenir à leurs vieux amours puis ils vont voter Parti québécois. J'entends ça souvent là, quand je me promène dans Sorel. Là.
Mais là, il me reste 2 minutes et 20 secondes, M. Harpin. Pour revenir à votre document, là, puis encore là, faites-moi confiance, je l'ai sous les yeux. Page 27. Là, là, j'ai besoin d'être assuré, je vous le dis tout de suite, parce que ce que j'ai lu, là, je tombe en bas de ma chaise. À la page 27, donc, du programme, vous mentionnez vouloir, on parle de la santé, là, repenser entièrement la structure administrative médicale des réadaptations des CHSLD. Vous ne me direz pas que vous voulez faire une autre réforme de la santé, vous autres, là?
Mais en fait,
vous ne les trouvez pas belles, les maisons de Mme Blais, vous? La maison des aînés, je trouve ça beau, moi.
Ben, je pense que réforme, c'est pas le bon terme, mais...
ça fait peur, hein?
Oui, bien, avec raison, c'est normal.
Il y en a eu beaucoup, là.
Oui, oui, c'est sûr, mais c'était des réformes négatives aussi qu'on a eues. C'est pas... Tu sais, les gens...
Mais vous pouvez pas dire que la CAQ, c'est pas positif, par exemple, là. Ce qu'ils veulent faire, en tout cas.
Ben c'est pas négatif, mais moi... Dire qu'on va privatiser, on va faire des tests vers la privatisation des soins de santé au Québec, je trouve pas ça positif. Honnêtement, c'est un pas vers la mauvaise direction. Il y a personne qui va me dire que la privatisation, ça fonctionne. On regarde aux États-Unis, ça marche, ça fonctionne pas. C'est pour ça que dans le document du Parti québécois, c'est indiqué qu'il y a des... Bon, on va aussi appeler ça réforme, appeler modification, qu'il faut qu'on fasse parce que le système ne fonctionne pas actuellement. Donc, si on veut garder notre système public... Il faut le changer.
Monsieur Harpin, ça marche pas, la santé. Je vous le dis, moi, j'ai assez hâte. On a mis des médecins, des infirmières, un gestionnaire. J'ai bien hâte, mais je pense pas voir ça de mon vivant. Toi, peut-être.
Peut-être. On espère.
Toi, ton âge, tu vas le voir. Gabriel Harpin, il nous reste 30 secondes. Je te remercie beaucoup. Merci, Gabriel Harpin. Bonne campagne. Continuez. Ça me ferait du bien de marcher un petit peu, moi, là. J'ai des kilos à perdre. Merci, Gabriel Harpin. Bonne fin de campagne. Voilà, ça met fin à notre émission pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on a un bon menu également, mais je vous réserve la surprise. Prenez soin de vous autres. La semaine prochaine, pour un autre, on a des choses à dire.